Eh bien, bonjour à tout le monde. Voilà. Ouais, je crois que c'est une suite logique de... On n'a pas parlé avec Christelle de ce que toi, tu as amené dans la louange et nos cœurs. Et c'est très défiant d'être là parce que... En tout cas, moi, je ne veux pas parler de quelque chose de bien ou de pas bien. Je veux juste que ce que Dieu a mis sur mon cœur puisse toucher vos cœurs et que ça vienne de lui, que vous puissiez être... vous receviez quelque chose ce matin. Alors pour commencer, je vais lire dans Marc chapitre 4, verset 35. Je suis désolée, je n'ai pas fait de PowerPoint, voilà, je suis allée à l'essentiel. Donc Marc chapitre 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous eu point de foi ?» Alors voilà, c'est... ça fait quelque temps que voilà, je suis touchée par ce passage. Et puis j'ai essayé de me mettre dans cette condition-là. J'ai voulu mettre à la place des disciples. Et je ne sais pas si... Je pense que ça vous est déjà arrivé d'être dans votre voiture... Et il vous tombe des seaux d'eau sur la tête. Il pleut, il pleut, il pleut. Et tu sais qu'il y a un moment donné où tu vas arriver chez toi et il va falloir sortir de ta voiture pour rejoindre ta maison. Et t'espères de tout cœur que chez toi, il ne pleut pas trop ou voire pas du tout. Et puis tu arrives et il pleut très fort. Alors là, moi, j'attends. J'attends, je me dis, allez, 2-3 minutes, ça va le faire. Ça ne le fait pas, il pleut toujours autant. Donc tu dis, je vais y aller, mais je vais être efficace, je vais faire ça en un voyage. Je prends tous mes sacs, j'en ai plein, je prépare ma clé. Je me dis, allez, pré-feu, partez, go. Tu dis, il ne faut pas que ça trempe la voiture, tu sors, tu fermes la porte, tu cours, tu fais tomber un sac, tu le ramasses, tu arrives à la porte. Les clés que tu as préparées sont coincées au milieu de tes sacs. Donc tu es obligé de sortir ta clé comme ça. Tu ouvres et tu rentres. Et pour nous les femmes, c'est le jour où tu as fait le brushing. Et la vérité, t'es dégoûtée. Et je me suis dit, je pensais à ça, je disais, Seigneur, ça, je trouve que dans ces moments-là, franchement, c'est pas cool. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils vivent. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils vivent. Eux, ils ont un tourbillon qui s'est levé. Alors moi, je suis allée chercher sur Internet, j'ai voulu voir pour être sûre. Le tourbillon, vous savez, c'est l'espèce d'énorme truc comme ça, là, qui t'arrive dessus. Et je me suis dit, eh ben moi... Je verrai ça m'arriver dessus. Je ne serai pas juste dégoûtée. Je serai en proie à une très grande inquiétude. Et puis en plus, dans la vérité, c'est que la barque se remplissait d'eau. Donc ce n'est pas écrit, mais j'imagine vraiment bien que les disciples, ils ont tenté d'enlever l'eau comme ils ont pu. Ils devaient enlever leur t-shirt. Enfin, je ne sais pas. Je pense que pris dans cette difficulté, ils ont tenté plusieurs choses. Mais ils ont constaté... qu'ils n'y arrivaient pas. Et je pense même qu'ils ont pensé qu'ils allaient mourir. Un flot, ça t'arrive dessus, la barque se remplit. Je me disais, en plus, c'est une barque, c'est pas un bateau, vous savez, où on a des petites cabines, où on peut aller se cacher et faire style que tout va bien, et au moins ne pas être mouillé, avoir les habits qui collent, enfin, toutes ces choses pas très agréables. Eux, ils sont juste dans une barque. Et je me dis, ne nous est-il pas arrivé à nous de nous retrouver dans une situation où on ne l'a pas vu arriver, c'était calme, et elle nous arrive dessus, et cette situation est tellement angoissante qu'elle nous en coupe le souffle, qu'on a l'impression qu'on va mourir, parce qu'on veut faire quelque chose, mais la vérité c'est qu'on ne peut pas en fait. On n'a pas les moyens de changer cette situation, et on ne sait pas quoi faire. Et ben, je crois que c'est dans cette situation qu'étaient les disciples. Je regardais juste avant, les disciples, ils ont été témoins de beaucoup de miracles, en fait. Ils ont vraiment vu Jésus œuvrer. Jésus, il avait guéri un démoniaque. Il avait guéri la belle-mère de Pierre. Ils avaient vu la guérison d'un lépreux. Ils avaient vu un paralytique être guéri. Et pourtant, ils sont dans une situation où, en fait, ils sont paniqués. En tant qu'enfants de Dieu, on a tous ressenti l'amour de Dieu. On a tous vécu la main tendue de Dieu qui vient nous sortir de situations difficiles. Et pourtant, moi je suis toujours émue devant l'amour de Dieu, et pourtant, il existe, on a encore des situations où on est pris de panique, où on a l'impression qu'on va mourir, où on a ce tourbillon qui est devant nous et ces géants en fait, qui nous dépassent et où on ne peut rien contrôler. Ce qu'ils avaient pour eux, les disciples, c'est qu'ils avaient Jésus dans la barque. Mais Jésus dormait sur un coussin. Je me suis dit, non mais le coussin, il devait être trempé, c'est pas possible. Enfin, tu le sens, les habits, vous savez, cette fameuse traversée de la voiture jusqu'à la maison, on a les habits qui collent, on a l'eau qui rentre dans le cou, vous savez, parce qu'en plus, on n'a pas la capuche ce jour-là. Mais c'est une horreur. Et Jésus, lui, il dormait. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés le réveiller. Moi, je me dis, quand j'ai un petit coup de panique chez moi, j'ai tendance, c'est horrible à dire, à m'agacer sur mes enfants, dire « Non mais tu vois pas qu'il y a un truc à faire là ?» Non, et je me suis dit, les disciples, ils devaient être légèrement tendus quand ils sont allés réveiller Jésus. En disant « Non mais franchement, on est en train de faire tout ce qu'on peut, on va mourir parce qu'ils sont dans une situation hyper grave. » Et Jésus, il dort. Enfin moi, je sais pas, je serais le réveiller, t'as envie de dire « Oh coco, s'il te plaît, enfin, fais quelque chose quoi. » Combien de fois on s'est trouvé face à ce géant ou cette tempête et on a prié et on a eu le sentiment qu'il ne se passait rien et que Dieu, ben, il n'était pas là ou qu'il faisait rien ou que voilà, tu as prié, tu fais ce que tu peux, tu as confiance, mais la vérité c'est qu'il ne se passe rien. Alors la question que je me suis posée, c'est ben alors comment il faut réagir? Comment on réagit face à cette situation, que ce soit une situation financière, que ce soit dans une situation conflictuelle avec quelqu'un, que ce soit une situation physique, en fait, dans le travail, n'importe comment. Comment il faut réagir? Comment il faut réagir? Ben, on a l'exemple de Jésus. Alors, ouais, Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est Dieu. Mais à ce moment-là, Jésus, c'est un homme. Il est fait homme et il a un corps comme le nôtre. La différence, c'est que Jésus, il sait qui il est. Il est le Fils de Dieu et surtout, il sait qui est son Père, qui est Dieu. Et il sait que malgré cette situation qui est catastrophique, Dieu est plus grand que tout ça. Alors, on n'est pas Jésus, mais on a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on a le Saint-Esprit. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, dans Romains 8, verset 11, il est écrit. On a cet esprit qui est en nous. Et nous sommes, si on a accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, fils et filles du Roi des Rois. Et parfois, on oublie qui est le Roi des Rois. On n'est pas seul, les amis, on n'est pas seul. Parce que Jésus, il a dit dans Jean 14, verset 16, « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un consolateur afin qu'il demeure éternellement en vous. » Alors, qu'est-ce qu'on fait face à une situation qui est insurmontable? Je crois que la première chose que Dieu nous demande, c'est de rester dans le calme. Alors on ne va pas se cacher, on ne va pas se cacher la vérité. C'est normal que face à une situation très difficile, on ait peur et qu'on panique. Enfin, je ne vois pas, c'est même un instinct de survie. La première chose qu'on fait, on se prend une bourrasque à couper le souffle. Eh bien oui, c'est normal d'avoir peur et c'est normal de paniquer. Voilà. Mais soit tu restes là-dedans, soit tu fais le choix de te positionner et de regarder à Dieu. Dans Ésaïe, chapitre 30, verset 15, il est écrit « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Je crois que Dieu, il souhaite qu'on reste calme. Parce que si on sait qui il est, alors on reste calme. Le diable, il peut rien contre nous. Il peut rien, parce que tout a été accompli à la croix. Ça, c'est une vérité. Ce qu'il peut faire, c'est nous faire croire des choses. Ce qu'il peut faire, c'est nous faire peur, en fait. Il peut nous faire douter. Et c'est ce qu'il veut, en fait. Il veut que nous ayons peur. Il veut que nous paniquions. Il veut que nous doutions. Parce que dans ces moments-là, en fait, on réagit et on fait des choix, on prend des chemins, on prend des décisions qui ne sont pas bonnes, en fait, et qui peuvent nous perdre. La peur, en fait, c'est, pour moi, l'opposé de la foi. C'est l'ennemi numéro un de la foi. Et Dieu, ce qu'il nous demande, et c'est ça tous les jours, c'est de combattre, en fait, les mensonges par la vérité. Parce qu'il nous a tout donné dans la Bible, il nous a tout donné. J'ai résumé dans Romains, chapitre 4, versets 17 à 22. Abraham a cru Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance et sans faiblir dans la foi, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et cette pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. 366 fois, il est écrit dans la Bible, ne crains point. C'est que Dieu sait que le diable veut nous faire peur. Mais 366 fois, il nous dit ne crains point. Dans la situation de nos disciples, c'est Jésus qui leur a dit « passons de l'autre bord ». C'est pas eux qui se sont dit « tiens Jésus, on a un petit coin à te montrer, hyper sympa, après la journée qu'on a eue, on va aller se reposer, je suis sûre qu'il y aura du poisson frit, on sera super bien ». Non, c'est Jésus qui a dit « passons de l'autre bord ». Et qu'est-ce qu'ils ont fait les disciples? Ils ont obéi. Quand on est sur le chemin que Dieu il a prévu pour nous, parce que je crois qu'enfant de Dieu, Dieu nous demande de faire des choix, d'avancer, de prendre des chemins, des fois qui ne sont pas évidents. Mais quand tu es dans le chemin que Dieu a prévu pour toi, alors tu n'as rien à craindre. Parce qu'il est écrit dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Et il ne faut pas se mentir. Lorsque l'on rentre dans l'appel que Dieu nous a appelé, le diable essaie de nous faire paniquer pour que nous fassions demi-tour, pour que nous changions de direction. Le peuple d'Israël, il était appelé à rentrer dans la terre promise, dans le pays où coule le lait et le miel. Et avant de rentrer, lorsque les espions sont allés voir, la vérité c'est qu'ils y ont vu des géants. Eh bien, on est appelé en tant qu'enfant de Dieu à avoir effectivement des géants devant nous. Mais Dieu est le plus fort, les amis. Dieu est au-dessus de tout ça. Il a nos vies entre ses mains. Il a le contrôle de nos vies, en fait. Et si même en tant qu'enfant de Dieu, tu as fait un mauvais choix, parce que c'est un moment de ta vie où tu te sens un peu perdu, parce que tu as cru bien faire, mais Dieu ne te condamne pas, en fait. Tu as une seule chose à faire, c'est tu reviens vers lui. Tu lui demandes pardon. Et il sortira de là parce que c'est un bon papa. On en a encore parlé la semaine dernière, c'est un bon papa. Il ne se réjouit pas qu'on souffre. Il a donné ce qu'il avait de plus cher, son fils sur la croix, pour que nous soyons libres, pour que nous soyons heureux. Donc Dieu viendra toujours nous chercher là où on est. Et si tu es une personne qui ne connaît pas Jésus, qui ne l'a pas reçu, qui ne peut pas dire « ben oui, c'est mon sauveur, je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés, que tu es ressuscité. » Et bien ce matin, il te tend la main. Il veut que tu deviennes son enfant, il veut prendre soin de toi. Alors dans cette barque, Jésus, il dormait. Mais en fait, il dormait pour de vrai. Quand mes enfants étaient petits, j'aimais bien me mettre sur le canapé et puis je faisais semblant de dormir. Alors, j'en avais un qui essayait de me réveiller, alors je faisais semblant de dormir. C'était juste pour voir ce qu'ils allaient faire, comment ils allaient réagir. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, vous, mais on a un petit œil comme ça. Et on regarde. Et c'est trop mignon. Ou pas, selon ce qu'ils font. Mais là, Jésus, il ne fait pas semblant de dormir. Il n'est pas en train de se dire, je vais voir comment ils réagissent les disciples, si ils ont cette foi, ils m'ont vu, voilà, ils ont grandi, ça fait un moment qu'on est ensemble. Mais pas du tout. Jésus, il dort sur son coussin. Parce qu'il est écrit, s'étant réveillé. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus ? Il n'a pas été impressionné, il n'a pas été choqué, il n'a pas fait « oh la misère, mais pourquoi vous ne m'avez pas réveillé avant ?» Non mais « oh la catastrophe !» Il ne s'est pas non plus mis à genoux en faisant « Seigneur, je t'en supplie, Dieu Tout-Puissant, tu sais que tu peux faire quelque chose. » Non, 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 il n'a pas été pris au dépourvu. Dans la Bible, toujours, il est écrit dans le psaume 23, verset 1 « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Jésus n'a pas été pris au dépourvu. Dieu n'est pas pris au dépourvu dans nos vies. Mais quand même, on peut se poser cette question, mais alors comment on lutte contre le danger quand ça nous dépasse, quand on veut vraiment de tout son cœur s'appuyer sur Dieu, de tout son cœur rester dans ce calme-là, mais la vérité, ce n'est pas aussi simple que ça. Comment on fait ? Mais on fait comme Jésus, on parle. Et c'est pour ça que je cite la Bible. C'est parce qu'il nous a donné toutes les armes dans la Bible. Et on parle. Parce que qu'est-ce qu'il a fait, Jésus ? Il a parlé. Il a dit... Il a menacé le vent et il a dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Pour pouvoir parler et pour pouvoir proclamer de sa voix, on ne peut pas passer par l'étape de passer du temps avec Dieu, d'avoir une intimité avec lui. Parce que le diable, lui, il cherche toute occasion pour nous faire peur, pour nous faire tomber. Mais si on est dans cette intimité avec Dieu, alors on peut, de notre voix, proclamer les promesses qui sont dans la parole, proclamer les vérités, parce qu'elles sont vraies. Dans Jean chapitre 8, verset 31, il est écrit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Elle nous rend libres, la vérité, les amis. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait cette parole ouverte. Parce qu'il y a des moments où on doit proclamer la protection de Dieu sur nos vies. On doit proclamer le tout accompli de Dieu à la croix sur nos vies. Alors nous, on a commencé l'année avec Jonathan de manière un peu difficile. Il a eu un accident avec un gros camion de location et il est rentré dans une voiture. C'était dans une Golf, donc ce n'est pas une grosse voiture, une voiture assez vieille. Et à son bord, il y avait une dame qui avait autour des 80 ans. Et Jonathan était responsable de cet accident. Alors, une gentille dame... Mais on a très vite appris qu'elle avait une fracture des cervicales. Quand Jonathan me l'a dit, il était au téléphone, c'était un soir où il n'était pas là. Et je vous avoue que j'ai pris cette tempête en pleine face. Vous savez, le « Oh !» Ça en a coupé le souffle. La première chose que j'ai faite, j'ai d'abord crié « Jésus ». Après, j'ai fait ce qu'il ne faut surtout pas faire. Je suis allée voir sur Internet... fracture des cervicales, comment ça se, quelles sont les conséquences. Et là, ce que je lis, les amis, c'est pas top. Mais alors, pas top du tout. Et là, je me dis, bon, prends ta Bible. Et j'ai fait la deuxième chose, je l'ai ouvert au pif, vous savez, dans l'espoir que la révélation que Dieu te dit, je suis là. Et je l'ouvre au pif. Et la vérité, c'est que ça ne me parle pas. Alors deuxième choix, je vais lire des psaumes, ceux que j'ai soulignés, vous savez, ceux qui me font du bien. Je les lis, oui Seigneur, mais la vérité, c'est que je ne me sens pas très bien. Elia se douche et puis Elia, elle écoute de la musique tout le temps non-stop. Et en plus, elle écoute très fort. Et au moment où je me dis, Seigneur, mais je t'en supplie, me laisse pas dans cette angoisse, on va mourir. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a le chant « Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir ». Alors là, j'ai un baume sur mon cœur qui permet d'être avec les enfants, qui permet de passer une nuit correcte. Mais ce baume, il est juste un petit peu superficiel. Vous savez, on se sent mieux, mais on ne se sent pas à l'abri de tout danger. Alors le matin, je me lève et je vais ouvrir ma parole. Et je lis, et je cherche encore un petit peu ces versets soulignés. Et je me sens un peu mieux, mais je ne suis pas encore établie en place de sécurité. Alors on part, il est 7h20 dans ma petite Twingo. Elle est géniale parce que comme elle est toute petite, elle chauffe hyper vite. Il fait nuit, en fait, c'est au mois de janvier. Donc j'ai mes deux garçons, Louis et William, et il fait noir. Donc ça fait une sorte de petite léthargie dans la voiture où voilà, on pourrait presque s'endormir. Et là, j'ai la pensée qu'il faut que je prie et que je prie à voix haute. Alors là, je me mets à prier. Alors les garçons, ils sont un peu comateux comme ça. Je dis, Seigneur, je veux le faire devant témoin. Bon, ben, il y a Louis et William, ils vont y avoir droit. Et je me mets à prier. Et je me mets à prier. Et je fais, ben voilà, je me suis toujours demandé si David, lorsqu'il ramassait ses cailloux pour aller contre Goliath, il était complètement linéaire dans ses sentiments, en disant, ben je sais que Dieu est tout puissant. Ou alors, est-ce qu'il est passé par des phases de, Dieu, tu es le plus fort, et oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais pourquoi je me suis lancée là-dedans, vous savez, le, oui, Dieu est tout puissant, oh là là, mais dans quelle situation, je sais, c'est une horreur, c'est une horreur. Et j'ai dit, ben je veux croire, parce que c'est pas écrit dans la parole, que non, il était sûr. Et je me mets à prier en disant, ben voilà, cet accident, cette dame qui a une fracture des cervicales, c'est notre géant. Et Seigneur, je crois que tu es le plus puissant. Je crois que tu es tout puissant. Je ne sais pas ce qui va se passer pour nous dans les prochains mois, mais je sais que tu es au-dessus de tout. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai proclamé à voix haute et j'ai prié. Et plus j'avançais dans ma prière, plus j'avais le fire, les amis, parce que je savais, que je savais, que je savais, que je savais que Dieu était avec nous et qu'il allait nous aider. Et que oui, il y avait une erreur qui avait été faite, mais Dieu pardonne et Dieu prend soin de nous. Oh, mais j'ai fini ma prière. J'ai dit, mais ils sont où les méchants? Ils sont où les méchants? Et voilà, on est parti. Et bien, vous savez ce qui s'est passé après? Rien. Rien. La situation n'a pas changé. Il a juste permis que cette dame ait de la bienveillance. Et elle n'a pas porté plainte. Et on était tellement contents avec Jonathan. Et il a été auditionné par les gendarmes. Ils disent, bah écoutez, elle n'a pas porté plainte. Il va se passer un petit temps. Si dans les 15 jours, on n'a pas de nouvelles parce qu'on doit le faire monter plus haut, c'est fini. Un mois passe. Et vous savez quoi? On est convoqué par le délégué du procureur. Et là, tu fais, oups, c'est pas très bien. Et les gendarmes disent, ça n'est jamais arrivé. En fait, on ne sait pas, voilà. Et là, je me rappelle que je sais, que je sais, que je sais que mon Dieu est plus grand que tout ça. Et pendant un mois, parce que le rendez-vous, ce n'était pas tout de suite, bien sûr, j'ai refusé le doute. J'ai refusé et j'ai proclamé à haute voix. À haute voix, les amis, c'est une importance capitale. Et Jonathan a eu son rendez-vous. Je lui ai dit, c'est comme si on y était tous les deux. Et ce monsieur a trouvé que bah, il y avait bien eu sur une contravention, il y avait eu des frais. Mais il a estimé que la punition n'avait pas été assez sévère. Donc il a dit, bah, je vais rajouter une petite amende et puis je vais aussi vous enlever votre permis pendant 2 mois. On a une entreprise, Jonathan doit conduire, hein, il a des grosses machines à tirer, il ne peut pas faire sans permis. Mais là, on a vu la main de Dieu, c'est que c'est les 2 mois où moi, je ne travaille pas parce que je suis enseignante. Et les clients de Jonathan, on leur a dit la vérité et ils ont eu compassion. Ça ne les dérangeait pas que j'arrive avec les enfants sur le chantier et qu'on le dépose et qu'on reparte et qu'il y ait tout un micmac. Et même, je peux dire qu'il y a eu des frais qui ont été engagés, qui ont été gros. Dieu a pourvu. Ça, c'est la réalité, les amis. Ça, c'est la réalité. Il a pourvu. Je crois qu'on a des missiles, on reçoit des missiles, mais pour pouvoir lever ce bouclier, eh bien, c'est la parole. Et je voulais vous citer quelques versets. Dans le psaume 28, versets 6 et 7, il est écrit « Béni soit l'Éternel, car il exauce la foi de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie, et je suis secouru. » Dans le psaume 27, verset 1, il est écrit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Dans Ésaïe 41, verset 10, il est écrit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Dans Jérémie 29, verset 11, il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ces versets, ils sont magnifiques. Dieu ne nous a pas promis que tout serait facile. Il nous a au contraire dit « Veillez et priez ». Mais ces versets, si on les proclame, si on les croit de tout son cœur, les amis, on n'a rien à craindre, parce que notre Dieu est le Tout-Puissant. Notre Dieu, c'est le plus fort, il est au-dessus de tout. Et en proclamant ces vérités, on proclame la vérité, le tout accompli, ce qui a été acquis dans les cieux, dans le monde spirituel, nous l'appelons dans le monde physique, dans le monde que nous vivons, où nous vivons, pardon. L'autre chose qui est importante, c'est que Jésus, il a dit « Tais-toi la mer », mais il a menacé le vent. Je crois qu'il est important de ne pas se tromper de combat non plus. Ils étaient dans la mer, et le problème, ce n'était pas la mer, en fait. Le problème, c'était ces grands vents, en fait, ce tourbillon qui a réveillé la mer et qui a fait rentrer l'eau. Il a menacé le vent. Je crois que parfois, on se trouve dans des situations où le problème, il n'est pas matériel comme nous, on l'a vécu. Il n'est pas forcément financier. Il est dans les relations avec les personnes. Et je crois que lorsqu'on est en conflit, lorsqu'on vit une injustice, lorsqu'on est dans une situation où même on peut être pris de colère, ne nous trompons pas d'ennemis. Parce que la personne qui est en face de nous, la vérité, c'est que Dieu, il aime autant que nous. Mais c'est ce qu'il y a derrière que nous devons refuser. C'est l'esprit qui ne vient pas de Dieu qu'il faut refuser. Et ça, c'est pas simple. Parce qu'on peut très vite faire la confusion entre la personne qui nous fait du mal et cet esprit qui, c'est lui qui veut faire du mal. Et la personne, la Bible est claire. Dieu nous demande de l'aimer parce qu'il aime. Il n'y a que l'amour de Dieu qui peut nous changer parce que, quand ce n'est pas juste, la vérité, c'est que ce n'est pas juste. On a encore une arme, je tiens à le dire, avec le Saint-Esprit. C'est le parler en langue, les amis. Qu'on le vive, quand on le vivra, on peut ne pas le comprendre, mais c'est une arme puissante. C'est quelque chose qui nous dépasse parce que je crois qu'on est limité, en fait. Enfin, je crois, c'est sûr, on est limité par notre intelligence. On est limité par notre compréhension. On est limité par le temps qu'on a. Mais Dieu, il n'est pas limité, lui. Et s'il nous a donné le parler en langue, c'est pour que l'on puisse, même si c'est quelque chose qui nous dépasse, même si c'est quelque chose qu'on ne comprend pas toujours, c'est pouvoir aller plus loin. Très peu de temps après, en fait, Loïs est tombé malade. C'est toujours après Equip, on fait la formation Equip. Et on rentre à la maison et je comprends assez vite que Loïs ne va pas bien. Il va très bien maintenant, hein, mais c'est un enfant, quand il était petit, à chaque fois qu'il tombait, il faisait comme ça, « Tout va bien !» Ou il faisait « Ça va !» Comme ça. Jamais, on savait qu'on faisait « Oh, tout va bien !» Très bien. Une fois, on a eu on en parle souvent, mais on a eu une intoxication alimentaire. Les cinq, on était au bout du bout du bout. Lui, il fait juste, je vais vomir. Il fait son truc comme ça et il revient. C'était fini. Il mangeait du coca. Nous, on était au bout du bout. On n'en pouvait plus. Elia, William, Jonathan, moi. Oh là 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 là. Le gamin, le verset, vous savez, que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à gauche, lui, il n'y arrive jamais rien. C'est incroyable. Et ce soir-là, j'ai vu que Loïs, il n'allait pas bien du tout. Alors j'appelle ma sœur qui est infirmière et qui me dit « Je pense que tu vas pouvoir aller aux urgences. » Oh. Et puis j'appelle Audrey. J'ai Audrey. Elle me dit « Je crois que tu peux aller aux urgences. » Allez, on enlève le pyjama, je l'emmène. Et puis on arrive aux urgences et puis on prie. « Seigneur, il est 21h, je te demande vraiment... on prie pour la guérison. » Et je vois mon Loïs qui est très très mal et qui pleure et qui me dit « Maman, j'ai mal. » Et là, je me dis « Il va vraiment pas bien. » Et on arrive aux urgences et plein de monde, c'est obligé en fait, plein de monde. Et je me dis, je le vois comme ça. Et je me dis « Mais il peut plus en fait, il peut plus. » Et j'appelle Jonathan, je dis « Oh mon doudou, il y a un monde. » Et il me dit « Prie en langue. » Alors me voilà aux urgences.
Et voilà, comme ça, vous savez, discrètement, je ne voudrais pas qu'ils me prennent pour... voilà. Et après, je me mets à prier, je me mets à prier en langue. Et je le fais, et plus je le fais, plus j'ai cette conviction que... Oui, en fait, voilà, il se passe quelque chose. Et la vérité, c'est que... L'infirmière qui dit, bon, bah, parce qu'ils étaient occupés, forcément, il ne se passait rien. Oui, et ben bah, vous, non, c'est pas là. Vous, bah, rentrez chez vous, revenez demain, vous. Et mais non, mais on ne peut rien faire. En 5 minutes, on est passé. En 5 minutes, on est passé. Et là, on parle de, voilà, d'une attente aux urgences. Quelle que soit la situation, notre Dieu est le plus grand. Il nous a donné la parole pour proclamer ses vérités. Il nous a donné le parler en langue. Et plus que tout, on a le Saint-Esprit qui habite en nous. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez. Je ne sais pas quelle est la tempête, quel est le géant qui est devant vous. Mais je prie pour que vous soyez établis et que vous réalisiez, que vous viviez en fait. Parce que ça ne suffit pas de le savoir, mais de vivre que Dieu est là. Et si vous venez de vivre une tempête et que vous avez été mis sur le côté, je crois que Dieu veut vous rétablir. Dieu vous entend, ça a été dit. Dieu voit les larmes qui coulent, Dieu il les recueille. Et Dieu il est fidèle et juste, il ne nous abandonne pas. Alors je vais prier.